découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Fabrice.
Comment allez-vous, mon cher Jean-Paul ?
Eh bien, écoutez, ça va, hein. Je me jette à l'eau là,
donc, eh oui.
Pour l'émission.
Eh oui, vous vous jettez à l'eau parce qu'on parle de l'eau, voyez-vous. On a parlé, de toute façon, on parle des contaminants cette année avec aussi des solutions. L'important déjà de prendre en compte ce qui existe, les dangers et puis aussi des chiffres qui devraient nous mobiliser, franchement. Parce qu'on doit se mobiliser, nous, pour mobiliser les pouvoirs publics pour que. Après, ça change. Si personne n'en parle, personne ne dit rien, vous continuez et c'est nos limites. Je peux vous dire que c'est nos limites, il faut les informer. Pour prendre aussi les bonnes dispositions, c'est important. Donc là, on a fait le tour la semaine dernière, enfin on a commencé à faire le tour des toxiques. Vous nous avez parlé de l'aluminium, vous avez parlé du chlore, si vous venez d'arriver, franchement, toutes les émissions de toute façon de Jean-Paul Curtet, je vous invite à vraiment les réécouter, de les partager, c'est très très important.
C'est gentil.
Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un maximum
de gens. On commence par les vieux trucs, hein. Bon, ce qui était très connu depuis l'Antiquité... L'aluminium, le chlore, on va passer aujourd'hui au plomb, hein, qui est aussi un vieux truc. Hein. Vous savez que ce n'est pas nouveau qu'on fasse des tuyaux au plomb. Bon, il y a des tuyaux en plomb, des tuyaux en cuivre, des tuyaux en PVC. Bon,
alors, mon cher Jean-Paul, vous êtes parti bien en tête. Je vois que vous êtes pressé, mais permettez-moi quand même, avant d'attaquer sur le plomb, pour ne pas plomber l'ambiance, c'est de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, merci. Déjà, merci de vous abonner si vous le faites en podcast, parce que là on est sur le live, mais vous pouvez très bien nous écouter en podcast, vous êtes nombreux à le faire, de plus en plus nombreux, ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, pensez à vous abonner et puis à recommander, à partager, à commenter, et pareil aussi si vous voulez aller faire un petit tour sur www.nutritv.fr, vous ne serez pas déçus, je pense. Bon, alors, on va plomber l'ambiance, le plomb.
Non, mais c'est donc, on est dans les tuyaux, hein, dans les tuyaux qui, depuis l'Antiquité, peuvent être en plomb. Bon, après, on a fait des tuyaux en cuivre, hein, tout le monde en a vu. Et puis, évidemment, le PVC, hein, le plastique, fait une pénétration incroyable dans le réseau de l'eau. On va revoir ça après. Donc, à la sortie des captages, il n'y a pas de plomb normalement dans l'eau. Hein. C'est au contact des canalisations, évidemment, que l'eau se charge. Il a été très largement utilisé, c'est très malléable, etc. Bon, les fameuses fontaines de Versailles du roi Louis XIV, hein, c'est des beaux tuyaux en plomb. Bon, mais comme on ne boit pas l'eau de la fontaine, ça va. Il a cessé d'être employé dans les années 50 pour les tuyaux intérieurs des installations privées, mais il a été utilisé quand même encore pour les branchements publics jusque dans les années 60, hein, les gros, et jusque de manière marginale jusqu'en 95. Il y a une latence terrible, hein, entre les publications scientifiques et les réactions. Hein. Par exemple, l'amiante, 106 ans, entre la première publication que ça donne le cancer et l'interdiction de l'amiante. Vous voyez un peu le délai. En attendant, ben, bonjour les dégâts. Malgré les dispositions réglementaires prises depuis, bon, là, la France a fait des efforts, hein, sur le plomb, ça, il faut être honnête. Hein. Outre les tuyaux en plomb, d'autres matériaux peuvent relarguer du plomb dans l'eau. Bon. Donc, les alliages de cuivre... qui comporte aussi un peu de plomb, hein, jusqu'à 5%. L'acier galvanisé, qui comporte un petit peu de plomb aussi, c'est des alliages, 1% de plomb. Les soudures, il faut bien les souder, ces tuyaux. Donc à la soudure, ben voilà, il y a du plomb. Ces soudures, ben, peuvent contenir jusqu'à 60% de plomb. Et puis même le PVC, ça j'y croyais pas, hein, sans stabiliser avec des sels de plomb. Donc... ce qui augmente la teneur en plomb, bah, si l'eau stagne dans les tuyaux, l'acidité, vous en parliez la semaine dernière, de l'acidité avec l'aluminium, Fabrice, l'acidité aussi favorise le passage de plomb dans l'eau. Une eau douce et acide se chargera plus en plomb au contact des canalisations. C'est un autre argument pour ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein, sur l'eau dure et l'eau douce. Vaut mieux de l'eau dure. Au moins, ça entarte les tuyaux. Et si vous voulez, l'entartrage calcaire va protéger du relargage de tous ces toxiques. Hein. Vous voyez l'intérêt. C'est pas bon, on l'a dit, pour les machines à laver, la vaisselle, le linge, mais pour le réseau public, Plus il y a de calcaire, mieux c'est, parce que ça fait une gangue qui protège des toxiques de ces tuyaux. La température de l'eau, la solubilité du plomb est plus importante quand il fait chaud. Alors bon, 25 degrés, c'est deux fois plus important qu'à 15 degrés. Bon, donc le réchauffement climatique, pas génial. Bon, il faut éviter d'utiliser de l'eau chaude pour faire sa cuisine. Hein, parce que si on met le robinet sur chaud, il va contenir plus de problèmes. Le décret du 5 avril 1995 a interdit donc la mise en place de canalisations en plomb dans les installations. Ouf ! En 1996, l'année suivante, on a interdit les brasures contenant du plomb. Enfin, encore deux ans plus tard, 1997, on a modifié la liste des métaux alliages autorisés pour la fabrication des équipements en contact avec l'eau potable. On progresse lentement, mais on progresse. L'Organisation mondiale de la santé a fixé en 1994 une valeur guide pour le plomb de 10 microgrammes par litre. On estimait en 2003 en France qu'un tiers des logements, environ 9 millions, étaient équipés encore de canalisations intérieures en plomb et qu'une proportion similaire était desservie par des branchements publics en plomb, encore 4 millions de branchements. Les canalisations publiques ont été débarrassées récemment des parties en plomb, oui, bravo. Mais les parties privatives n'ont pas été modifiées jusqu'à présent. Bon, ceci dit, vous savez que quand on veut louer ou vendre sa maison, on a un expert qui vient et qui fait un bilan, amiante, aussi le plomb, bon, l'efficacité énergétique, l'isolation, etc. Donc ça va peut-être faire avancer plus les choses. Mais il y a tous ces vieux logements, si vous voulez, qui ne sont pas assainis, quoi. Les analyses montrent que jusqu'à 75% de l'eau distribuée dans les logements, dont les canalisations contiennent du plomb, enferment plus de 10 microgrammes par litre. C'est un métal lourd toxique, vous en doutez, on n'en a pas besoin. Hein. Ça s'accumule dans les globules rouges, dans les os, le foie, les reins, les neurones. Il peut provoquer des retards mentaux, des troubles neurologiques. C'est archi connu depuis longtemps, on appelait ça le saturnisme, hein, du nom du dieu Saturne. Qui était tellement fou qu'il mangeait ses enfants. Bon. Et aussi des problèmes de mémoire et d'attention. Bon. En observant des travailleurs exposés au plomb, les chercheurs ont constaté une élévation de la mortalité par cancer, même du poumon. Quel rapport entre le poumon et le plomb ? En tout cas, c'est pas bon. Le rein, l'estomac. Mais l'exposition n'est pas seulement professionnelle. 15% de la population aux États-Unis présente des taux de plombémie au-dessus de 20 microgrammes associés à une mortalité globale supérieure de 46% à ceux qui ont une plombémie plus basse, de 39% pour la mortalité cardiovasculaire et de 168% pour la mortalité par cancer. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, un pays archi-développé et tout, la sixième cause de mortalité, c'est le plomb. Le seuil légal de danger, de quantité tolérée, est de 50 microgrammes de plomb par litre de sang, alors qu'elle était de 400 en 76. On progresse sur les normes, mais bon. L'OMS vous dit c'est zéro tolérable, hein, comme pour le mercure. Donc les toxicologues estiment qu'il n'y a pas de seuil, il doit être zéro. Voilà. Et c'est maintenant la position officielle de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Autorité de santé publique européenne, l'EFSA. Les symptômes qui alertent. Alors, selon une enquête faite en 2010 auprès de 81 médecins généralistes de la région parisienne, c'est les douleurs abdominales. C'est chez 100% des gens, la fatigue très élevée, les céphalées, un ralentissement chez les enfants de la croissance, un retard mental de chez 75%. Hein, le plomb, c'est neurotoxique, ça fait baisser le QI. Plus il y a de plomb dans les mailles des enfants, plus ils ont un retard scolaire. Dans une étude menée chez 270 élèves d'école primaire, une exposition au plomb est associée à des scores neurocomportementaux détériorés. 11 ans plus tard, le sous-groupe des 132 enfants les moins exposés est réétudié. Ceux qui ont un taux de plomb dans la dentine supérieur à 20 ppm, partie par million, hein, ont 7,4 fois plus de chances d'abandonner les études et 5,8 plus de fois de difficultés à la lecture. Alors déjà que l'école patine, hein, on a des mauvais scores mondiaux, ben on n'a pas besoin de ça en plus. De plus, tout un corpus d'études a établi un lien fort entre l'exposition au plomb et les comportements agressifs, antisociaux. En 2010, une méta-analyse conclut que les enfants exposés au plomb présentent effectivement plus de risques ensuite de présenter des conduites antisociales, allant jusqu'à la délinquance et à la criminalité. C'est, malheureusement, quand on étudie la population des délinquants et des gens en prison, ils ont des facteurs qui les ont aidés à arriver à ces situations absolument indésirables, c'est évident.
C'est incroyable.
En 2016,
ça.
Oui.
Ah, c'est incroyable ce que vous dites.
Oui.
Je bois vos
beaucoup,
paroles.
Par exemple, de troubles psychiques, hein, chez les beaucoup plus de fréquences de problèmes de santé mentale chez les délinquants, d'ailleurs chez les SDF aussi. Donc, si vous voulez, les gens se retrouvent en marge de la société parce qu'ils ont mal été suivis. Ils ont beaucoup, c'est pas franchement entre guillemets leur faute. Hein. On a bien fait d'abolir la condamnation à mort grâce à M. Badinter. Mais il y a une énorme réforme à faire au niveau de l'accompagnement des gens, et encore plus des gens qui sont, voilà, qui se retrouvent dans ces situations terribles d'incarcération ou de vie dans la rue, quoi.
De toute manière, la précarité, que ce soit pour l'humain, mais enfin, je veux dire que ce soit l'environnement, les gens dans la précarité sont les premiers touchés en réalité par la mauvaise alimentation, par le réchauffement climatique.
Plus, oui. C'est évident que leurs conditions de vie, leur accès à la déjà. Les gens qui ont tout, ils savent pas bien choisir et ils ont. Tout le monde sait hein, que la mauvaise bouffe, elle est beaucoup plus facile à trouver que la bonne.
Exact. Alors, on marque une pause, tiens.
On marque une pause.
Je pense que c'est le moment est venu de faire une petite respiration et on revient dans un instant avec le docteur Jean-Paul Curté. C'est sur Nutri Radio.
Nutri Thérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Il plombe l'ambiance aujourd'hui. C'est au premier degré parce que, vous parlez du plomb. Alors j'espère bien que vous allez nous dire un petit peu comment éliminer ce plomb, ce qu'on peut faire pour, voilà, pour être en mieux
prêt. Il faut déjà éviter, Fabrice, de s'exposer. Quoi. Hein, parce que non seulement, si vous voulez, le plomb, on l'a dit tout à l'heure, il est un facteur de désadaptation, d'antisocial, délinquance et même criminalité. Et c'est confirmé même à distance. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une exposition au plomb dans l'enfance. Hein, par exemple, Taylor, en 2016, montre que 15 à 24 ans plus tard, le risque de conduite criminelle est toujours augmenté. Parce que malheureusement, il y a une rétention dans les tissus et dans le cerveau. Par exemple, si le plomb est arrivé dans le cerveau, il n'en ressort pas. S'ajoutent aux apports en plomb de l'eau, ceux de certains aliments, en particulier tout ce qui est fruits de mer, hein, évidemment. On se doute que la moule, elle filtre des centaines de litres par jour. Elle se retrouve très polluée, la moule. Hein. On a compté, rien qu'en plastique, par exemple, 300 particules de microplastique par moule. Bon, alors la frite moule, bon, je pense qu'il...
Oh, c'est fini les moules frites. On ne peut plus manger de moule. Attendez, mais non, mais qu'est-ce qui se passe?
Bon. Si on en mange une fois par an, c'est peut-être pas très grave, mais bon, souvent, c'est peut-être pas la meilleure idée.
D'accord.
Le gibier. Alors, le gibier, comment est-ce qu'on fait la chasse? Boum, boum. Ben, cartouche au plomb. Hein. Il est interdit dans les pays scandinaves, qui ont des billes en acier, mais chez nous, non. Donc, une cartouche de 35 grammes contient 300 mille de plomb, qui peuvent contaminer la faune et la chaîne alimentaire. En plus, les chasseurs, ils mangent le gibier dans lequel ils ont envoyé le plomb. Bon, c'est pas la meilleure idée. Les alcools conservés dans des carafes en cristal. Hein. Pour faire du cristal, il faut du plomb. Donc, on va sortir pour les invités la belle carafe de baccarat qui a conservé le porto de la grand-mère. Bah oui, mais alors le porto plombé. Hein. Donc, voilà, c'est des trucs bêtes, mais si vous voulez, ce qui tue le plus dans cette affaire-là, c'est le manque d'information, parce que cette pollution est invisible, on ne s'en rend pas compte. Hein. On pense se faire plaisir en buvant dans une belle carafe en cristal une boisson, mais si elle est passée là juste, elle était versée quelques minutes avant, pas de problème. Mais si elle est restée dans le flacon, ben non, ce n'est pas la bonne idée.
Ouais, ouais.
Et puis, comme vous le savez, la majeure partie du plomb qu'on a dans notre corps, il vient en fait de l'essence, dans laquelle c'était un additif, qui a été interdit finalement, heureusement. Mais des dizaines d'années plus tard, il est toujours là, ce plomb. On l'a dit, il reste, d'accord. Et ça, c'est un problème. Bon, puis il y a des pays qui ont été beaucoup plus lents à interdire le plomb, puisque je crois que, si je ne me trompe pas, l'Algérie a été le dernier pays, il y a un ou deux ans, à interdire le plomb dans l'essence. Donc, ils en avaient encore. Un Français moyen absorberait via l'alimentation environ 2 mg de plomb par mois. Ce plomb provient surtout des légumes et des fruits qui ont été arrosés, donc du vin, du pain. Cette part, dans cette étude, la part de l'eau elle-même n'est pas spécifiée.
Eh bien, dis donc. Et alors, quand on pense qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Parce que là, maintenant, vous allez nous parler du cuivre.
Oui, alors, bon, le cuivre, c'est moins méchant que le plomb. Le cuivre, on en a besoin un petit peu. C'est un oligo-élément essentiel, d'accord ? Donc, il ne faut pas en manquer, mais bon, il manque rarement par rapport au fer. Mais comme le fer, c'est un très, très puissant pro-oxydant, pro-inflammatoire, neurotoxique. Donc, il ne faut pas en manquer, d'accord, mais c'est rare qu'on en manque. Et par ailleurs, par contre, c'est beaucoup plus important qu'on n'en ait pas trop. Le cuivre le plus pro-oxydant de tous les minéraux, pire que le fer, ça explique son efficacité comme pesticide. Par exemple, la bouillie bordelaise, qui est autorisée en bio, pour éviter de prendre des pesticides, on met du cuivre. Mais bon, ce cuivre-là n'est pas anodin. D'ailleurs, les vignerons bio essaient de changer de leur fusil d'épaule et de réduire le cuivre, d'autant plus qu'ils se sont aperçus que ça stérilise le sol. Le cuivre, il tue tout, donc il tue les vers de terre, il tue les microbes qui font la santé du sol, et donc ça crée un vieillissement accéléré de leur vignoble. Donc finalement, le problème les rattrape, et il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. On les utilise comme bactéricides, comme agents de contraception, le fameux stérilé au cuivre. Alors, une bonne nouvelle, les femmes qui ont un stérilé au cuivre, elles font beaucoup moins de cancer du col utérin. Pourquoi ? Parce que le cuivre est tellement toxique qu'il bousille les virus qui sont à l'origine, le papillomavirus. Mais le problème, c'est que ça enflamme les tissus autour. Ce n'est pas une bonne idée. Stérilé au fer, stérilé au cuivre, stérilé... Non. De toute façon, il n'y a qu'une seule bonne forme de contraception. Un jour, peut-être, on en parlera ensemble sur Nutri Radio. C'est le préservatif. Mais on ne peut pas en sortir, il n'y a que ça qui protège des virus et des bactéries, et de tout le reste, il y en a une ribambelle. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une recrudescence massive des MST, des maladies sexuellement transmissibles, même les vieilles, comme la syphilis et tout, qui remontent en flèche. Donc faites gaffe, bon, on peut se faire plaisir sans se tuer. Nietzsche, il est mort dans le coma à cause de la syphilis, c'est pas génial. Nos grands-mères avaient de bonnes raisons aussi de cuire les confitures dans des bassines en cuivre. Évidemment, parce que ça stérilise la confiture. Le problème, c'est qu'il y a du cuivre quand on fait la confiture qui passe dans la confiture. Bon, ça, c'est moins bien. Voilà. Il faut plus d'informations pour éviter de faire des bêtises. Bon. Les études montrent que des apports en cuivre élevés ou un taux de circulant de cuivre élevé sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, un pronostic très défavorable dans les cancers. On trouve même du cholestérol oxydé par le cuivre, ça fait des auto-anticorps qu'on peut détecter, donc on peut même doser si on veut le nombre de cholestérol qui sont endommagés par le cuivre et qui vont rester bloqués dans les artères du cou. L'exemple le plus spectaculaire, c'est une maladie génétique d'accumulation du cuivre, ça s'appelle la maladie de Wilson. Je pense que les gens connaissent plus, vous connaissez plus l'hémochromatose, qui fait la même chose avec le fer. Par exemple, il y a plus d'hémochromatose dans l'ouest français, par exemple en Bretagne. C'est génétique, on retient plus de fer qui s'accumule dans le foie, on fait une cirrhose et voilà. Évidemment, ça raccourcit la durée de vie, ça favorise les cancers du foie, mais aussi ce fer va dans le cerveau, favorise l'Alzheimer, la Parkinson. Bon. Alors, pour le cuivre, c'est encore plus radical, parce que cette maladie de Wilson, elle donne encore beaucoup plus tôt un problème, on va le voir. Et ça, s'en est aperçu grâce à deux régions du monde. Le Tyrol en Autriche, où dans les montagnes, ils avaient la tradition, la belle bassine en cuivre, de chauffer pour les enfants le lait dans ces bassines en cuivre. Or, ça leur a donné des cirrhoses et une mortalité élevée à partir de l'âge de 8 ans. Même chose en Inde. On a vu exactement le même phénomène pour la même raison. Bon, alors évidemment, depuis... ça a été supprimé une fois qu'on a appris ça. Donc des apports élevés en cuivre sont des facteurs de risque cardiovasculaire, on l'a dit, de déclin cognitif, de maladie d'Alzheimer et de mauvais pronostics dans les cancers et la mortalité de toute cause. Donc les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cherchent des thérapies chélatrices, hein, anti-cuivre. On va bloquer le cuivre. Ça a été utilisé avec succès dans certaines maladies inflammatoires. Là, on l'a dit, le cuivre est très pro-inflammatoire, très violent. La rétinopathie, les maladies cardiovasculaires du diabétique, contre l'angiogénèse, hein, il s'avère que dans les cancers sont très malins, hein, ils multiplient les vaisseaux pour soutirer toute la bouffe à leur profit, aux dépens de l'hôte, hein, qui maigrit, en fait, qui meurt pratiquement de famine, parce que c'est sa tumeur qui a tout bouffé à sa place. Donc cette angiogénèse, hein, c'est-à-dire la néoformation de vaisseaux dans la tumeur, ce plus gros stimulant, c'est quoi? Le cuivre. Les tuyauteries en cuivre subissent une corrosion qui s'amplifie après un certain nombre d'années, ce qui entraîne la présence de ce métal dans l'eau du robinet. On l'a déjà vu, ça, dans des éviers, hein, une petite trace bleutée. C'est parce qu'il y a du cuivre dans l'eau. Mais il provient aussi de son usage comme pesticide. Les autres sources sont alimentaires, particulièrement les abats. Bon, les abats, ça concentre un peu tout. Les fruits de mer, les aliments préparés dans les casseroles, on l'a dit, ou les bassines en cuivre. Et donc, alors, ça ne suffit pas. Hein, vous savez que les compléments alimentaires, hein, Nutri-Radio connaît bien les compléments alimentaires, à une époque, on se disait, bon, bah, si vous manquez de quelque chose, on va tout mettre, hein, tout en un. Et donc, dans les vieux compléments alimentaires, on trouve du fer, du cuivre, du manganèse. Bon, or, le cuivre, c'est inacceptable dans les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que ça va détruire les antioxydants, la vitamine C, qui devient pro-oxydante, hein, génératrice de radicaux libres dans le comprimé. C'est pas acceptable, d'accord? Et de toute façon, le cuivre, la majeure partie des gens n'en manque pas, et c'est toxique. On peut lire donc dans Science et Avenir un magnifique morceau de propagande commerciale occultant toutes les données de dangerosité du cuivre. Olivier Tissot, directeur du Centre d'information du cuivre, précise que le cuivre est largement utilisé comme matériau de canalisation dans les hôpitaux. Des études scientifiques ayant prouvé qu'il limite la croissance de la légionellose, enfin de la légionelle, qui en a quelques cas récemment. Grande cause d'infection nosocomiale à l'hôpital. Plus généralement, le cuivre est reconnu comme un agent antipathogène efficace. Il inhibe le développement d'un certain nombre de parasites infectieux, d'algues, de bactéries. C'est vrai. Hein. Mais, alors il dit, continue, hein, ce lobbyiste du cuivre, parfaitement imperméable, les canalisations en cuivre mettent l'eau à l'abri de toute pollution par des agents contaminants extérieurs, tels que les produits de nettoyage ménager, les insecticides ou les solvants organiques. Le cuivre est le seul matériau au monde avec l'acier pour lequel on a un retour d'expérience suffisamment important pour assurer une totale compatibilité avec nos habitudes. On l'utilise depuis plus de 100 ans, mais bon, c'est pas parce qu'on l'utilise plus de 100 ans que c'est bon. Hein. Alors, monsieur Tissot, excusez-moi, mais on a dit exactement la même chose avec le mercure, hein, excellent désinfectant, mercurochrome, aussi pendant des centaines d'années, avant de s'apercevoir de ses effets terriblement délétères sur le cerveau et bien d'autres organes, et de le retirer complètement du marché, hein, y compris les thermomètres, etc., comme vous le savez. Mais pendant des années, on a utilisé le mercure comme désinfectant, hein, avec l'idée que le mercure ne pénètre pas la peau, sauf qu'on le mettait que sur des plaies, et donc ça passait directement dans le sang.
Alors pour le cuivre...
Après on faisait des dosages, on cherchait le mercure dans le sang, mais il n'y en avait pas, il était déjà dans le cerveau, et il y reste. Alors... Donc si vous voulez, ça a continué à entretenir, hein, puis il y avait du mercure dans les amalgames dentaires, on ne se comprenait pas pourquoi les dentistes faisaient autant de démence, voilà.
Alors, pour revenir sur le cuivre, parce que je voudrais apporter un peu de contradiction, mon cher Jean-Paul, mais légèrement, vous savez que vous pouvez me mettre dans les cordes en deux-deux, mais néanmoins, parce que vous dites que le cuivre dans les compléments alimentaires, c'est pas bon, mais le Vidal, qui nous dit que c'est un oligo-élément qui participe à de nombreuses réactions biochimiques dans les cellules, indispensable à la formation des tendons, du cartilage, à la minéralisation des os, à la production des globules rouges, ainsi qu'à la synthèse de mélanine, et surtout qu'en 2012, l'EFSA et les autorités de santé se sont prononcées sur certaines allégations santé des aliments et des compléments alimentaires contenant du cuivre. Après examen des données scientifiques, elles ont estimé que ces produits peuvent prétendre contribuer au métabolisme énergétique, au maintien du tissu conjonctif, au fonctionnement du système nerveux, à la pigmentation de la peau et des cheveux, au transport du fer dans le sang, au fonctionnement du système immunitaire et à la protection contre les radicaux libres.
Incroyable. Non mais vous voyez, c'est ça. C'est la même erreur qui a fait que les ophtalmologues, enfin les spécialistes de l'œil, ont mis du cuivre contre la DMLA. Après, ils se sont aperçus que ça faisait l'effet inverse. Non, c'est parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle la superoxydismutase à cuivre, qui est antioxydante, c'est vrai, mais à condition, le cuivre n'a d'impact là-dessus que si on en manque. Or, presque personne n'en manque déjà, ça c'est le premier point. Donc, il n'y a pas à en donner, il y en a suffisamment dans l'alimentation. Deuxième chose, c'est que le cuivre tout seul est un très violent pro-oxydant, d'accord ? Et donc, ça faisait l'effet inverse. Et en plus, dans la DMLA, il y a de l'angiogénèse dynamisée par le cuivre. Donc, si vous voulez, ils ont lu des textes de biochimie sans regarder la réalité du terrain. Voilà, comme souvent.
Et ben en tout cas, ça fera, je pense que ça fera parler et on sera ravis d'en parler avec vous à nouveau dans d'autres émissions, avec aussi des gens qui pensent soit pareil, soit différemment, soit qui peuvent encore apporter des précisions. Parce que c'est vrai que c'est important. C'est comme ça qu'on avance. Donc en pratique, le cuivre, vous l'avez dit, reste moins problématique que le plomb et il n'y a pas encore d'alternative qui s'impose. Hein.
Pour les tuyaux de cuivre, si, c'est-à-dire ne pas utiliser du tuyau en cuivre, si vous voulez, c'est moins grave que le plomb, mais c'est pas bon. Donc voilà, on a besoin de progresser au niveau des techniques et des matériaux.
Donc, on répète, ne pas utiliser l'eau qui a stagné dans les tuyaux, c'est ça, hein?
Ça, on ne peut pas le savoir, mais quand, par exemple, on est parti en vacances, on revient pour se laver les dents, il vaut mieux laisser couler une minute l'eau avant de commencer à l'utiliser. Mais bon. Avec mes nouveaux pesticides là, dans l'eau, je ne peux même plus me laver les dents avec.
Ah bon ?
J'utilise de l'eau filtrée. Ben non.
Oh là là,
on
ne
peut plus se laver les dents avec.
Ah oui, c'est vrai, chez vous.
Laver les fruits et légumes. Ben
non. Dans votre région, là, vous êtes où ? Rappelez-nous, où est-ce que vous êtes ?
Je suis à l'extrême sud de la forêt de Fontainebleau, mais... Il y a énormément de communes de l'Aisne qui sont touchées. Il y a de plus en plus de régions betteravières.
Bon, eh bien, écoutez, vous voulez rajouter quelque chose, mon cher Jean-Paul, pour terminer cette émission ?
Alors, oui. Donc, on devrait investir pour mettre au point des techniques tuyauteries qui ne relarguent pas ces molécules offensives. Bon, plomb, cuivre, PVC, chlorure de vinyle, monomère. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein, c'est-à-dire que le PVC, c'est pratique, hein, mais ça libère un gaz qui s'appelle CVM, chlorure de vinyle monomère, qui est carcinogène, en particulier sur le foie, hein, hépatocarcinome. Il est relargué par les canalisations en PVC datant d'avant 1980. Bon, après, ils sont aperçus, il y a eu un changement, je n'ai pas bien compris lequel, mais théoriquement, selon le site gouvernemental, après 80, les PVC posés ne poseraient plus de problème. Bon. Ceci dit, ils reconnaissent qu'il reste 300 000 km de ces tuyaux de PVC datant d'avant 80 en France métropolitaine. Voilà. Et puis, s'ajoute à ça des perchlorates aussi carcinogènes, des résidus de médicaments, ainsi de suite. Bon. Vous voyez, et puis, on va voir dans les émissions suivantes les nouveaux polluants, comme les PFAS et le reste, et puis on va après, évidemment, développer tout ce qu'on peut faire pour se protéger.
Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul. Merci pour toutes ces informations qui sont précieuses et qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de vous faire réagir. Si vous voulez d'ailleurs nous envoyer des questions, interagir avec le docteur Jean-Paul Curtet, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact en précisant Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curté, comme ça permet d'identifier tous les mails qu'on reçoit, parce qu'on n'a qu'une adresse mail pour toutes les émissions. Vous allez me dire, oui, on va avancer. Prévu pour 2032, normalement, on aura deux adresses mail pour toutes les émissions. On avance. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Merci à tous et bonne semaine. Et à la semaine prochaine.
Exact. Et cette émission, vous la retrouvez en podcast. Si vous venez d'arriver un instant, elle est a priori, car les choses sont bien faites, sur le site de nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Retour de la musique tout de suite, reste avec nous.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.